Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission Bana Okapi. Ce programme dédié aux plus jeunes est réalisé en partenariat avec l'UNICEF. Il est diffusé sur les antennes de Radio Okapi du lundi au vendredi de 15h30 à 17h. Selon le calendrier scolaire officiel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, l'examen d'État 2024 en RDC se déroulera du 24 au 27 juin 2024. Comment les élèves finalistes du secondaire se préparent aux examens d'État? Nous en parlons dans cette émission mise en onde par Dieudonné Nyangassa Wanyangassa. Je suis Sarah Soumbela à l'animation. Bienvenue à tous. Commençons cette émission par Kinshasa, où nos reporters ont discuté avec quelques finalistes sur leur préparation aux examens d'État. Ces élèves, principalement de l'Institut Saint-Joseph Bonsomé d'Njili, reconnaissent les efforts fournis par leurs parents sur le préparatif des examens d'État. Ces derniers les accompagnent du mieux qu'ils peuvent, surtout en ce qui concerne le frais et autres articles nécessaires pour ces épreuves. Ils s'expriment au micro de Grâce Vézolo.
Ils nous aident pas réellement. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu réellement un parent qui aide son enfant. Le réveillant chaque matin, non mon fils, viens, nous allons travailler tel exercice. Mais bon, j'ai un ami à moi qui lui, son père est un inspecteur. À chaque fois il nous appelait, il regroupe un bon nombre de nos amis nous appelant pour réaliser une dissertation. Que non, tout un chacun puisse réaliser une dissertation. Et c'était comme ça, chaque week-end. Chaque week-end, on devait réaliser ces dissertations-là avec lui. Et ça me faisait vraiment une certaine joie, en fait, quand je voyais ça. Je me dis, il se soucie de l'avenir de demain.
Oui, moi, mes parents et mes soutiens, ils m'accompagnent pour préparer les épreuves. Souvent, mon père me pose quelques questions et il me dit, souvent, ce sont des questions qui reviennent, entre guillemets, au français oral. Et il ne s'arrête pas là, il continue juste à nous acheter aussi des vêtements pour que nous soyons bien armés afin de pouvoir affronter ces épreuves. Et il nous soutient aussi en prière. Avant d'aller au centre ou d'aller à l'école, il m'appelle et puis il me dit souvent soit de me mettre de m'agenouiller ou de rester sur le canapé. Et puis, ils font une prière de courte durée et puis il me souhaite de bonnes chances, de bons travaux, que le Seigneur soit avec toi. À leur niveau, ils nous poussent à étudier. Et les matières que nous ne comprenons pas, ils nous exigent à ce qu'on puisse contacter certains de nos amis qui comprennent mieux la matière ou bien les mêmes professeurs qui nous dispensent de cours en classe, de pouvoir mieux nous éclaircir. Et en bref, je peux dire que bien qu'ils ne soient pas totalement avec nous, mais à leur niveau, ce qu'ils font pour nous, c'est vraiment grandiose. Et moi, j'ai l'air sûr reconnaissant pour ça.
Chez nous, mes parents m'encouragent à beaucoup lire, à beaucoup étudier, à ne pas être distrait. Et la preuve en est même que je n'ai plus de téléphone. Ils m'ont ravi le téléphone. J'en ai plus pour ne pas être distrait, pour ne pas être beaucoup plus focalisé sur le téléphone à la place du cahier.
Alors moi, on m'a toujours dit que l'homme se forme par la peine. Donc, à chaque 6h du matin, lors de mes épreuves hors session, il me réveille et me dit, Voli, tu dois réviser, une petite révision va beaucoup t'aider. Peut-être la matière que tu as négligée la nuit, tu peux la lire maintenant et ça pourrait revenir lors de tes questionnements. Et là, je prends la motivation, je révise. Et puis, au moyen financier. Donc, papa est toujours là pour me financer. Quand je dis, papa, je suis en manque de ça, il m'achète des livres, des manuels pour me pousser toujours de l'avant. Donc, par là, je suis reconnaissant, je leur dis merci pour tout.
Voilà, alors comment les responsables de votre école vous accompagnent dans la préparation de ces épreuves nationales?
Pour moi, je pense que les autorités ont un rôle primordial en fait. Ils ont un rôle primordial pour notre réussite. Parce que c'est eux qui vont nous divulguer les conseils à faire, vu qu'ils sont les mieux placés pour le faire. Donc ils sont les mieux placés à nous divulguer les conseils nécessaires pour une meilleure réussite en fait. Vu que c'est pas à la maison qu'on apprendra le remplissage des grilles électriques en cas de problème. Donc ces autorités là, elles sont en fait le centre de notre réussite. C'est pas aussi au centre qu'on ira t'apprendre à comment remplir. Donc c'est déjà la base des autorités. Malgré que je ne mentionnerai pas la prière ici, vu que la prière a un grand rôle déjà. Oui, certes, mais la prière sans travail n'est rien. Le travail sans la prière aussi n'est rien. Mais ces autorités-là, sans elles, je ne sais pas. Si vous n'avez pas une bonne autorité dans votre école, un bon dirigeant, c'est ça, le dirigeant, la droite, comme le dit un politicien français, la droite. Dans un groupe, il y a toujours une horizontale et une verticale. La verticale, c'est celle qui dirige, en fait. Sans la verticale, le groupe n'avancera jamais. Donc c'est elle l'autorité, c'est elle qui nous apporte. Dans une société ne mérite pas d'être horizontale. Elle doit avoir une verticale aussi avec elle pour faire comme un angle droit en fait. C'est ça.
Et les autorités nous soutiennent parce qu'elles organisent souvent des cours d'encadrement pour les finalistes. Pour le moment, nous sommes en vacances, mais ils nous appellent toujours à l'école. Venez, vous devez étudier les matières que vous n'avez pas encore finies. Vous devrez compléter tout ça. Et en prière aussi, elles sont là, elles nous soutiennent en prière. Avoir de bonnes autorités dans l'école, c'est vraiment capital pour la réussite des élèves. Aujourd'hui, les écoles, dont leurs élèves sont de lauréats, sont de ceci, font des bons points. Bien sûr, ce sont des efforts personnels. Mais on peut dire aussi, ce sont les efforts de leurs autorités. Parce qu'ils font tout. Ils leur prodiguent des conseils, ils leur poussent à étudier, à faire de leur mieux pour occuper souvent les places là excellentes.
Chez nous à l'école, hormis les leçons apprises tout au long de l'année, l'école organise aussi des cours supplémentaires qui nous habituent en fait à répondre facilement aux feuilles des examens, des anciens items.
Toujours dans le même cadre, les élèves finalistes du secondaire disent mettre le paquet dans la préparation pour affronter les épreuves nationales de plusieurs manières. Cette préparation passe par le mental, donc moralement, spirituellement et aussi physiquement. Grâce Voisolo a tendu le micro à quelques-uns d'entre eux. Suivez.
Je prends cette épreuve comme un examen simple depuis longtemps. Donc, je pense que cela réfère juste aux notions apprises dans les basses classes. Personnellement, c'est comme je le vois, en fait. Voyant les examens des années antérieures, en fait, relisant, je me suis dit que non, ça, il faudrait juste lire.
Et moi, sur les plans vestimentaires, je me vais d'une tenue décente pour ne pas me sentir gêné parce que la tenue a aussi une influence sur le mental d'une personne. Et j'étudie beaucoup car on dit souvent que le secret de la réussite, c'est l'étude. Et je n'oublie pas aussi la prière. Il faut tout remettre entre les mains divines. La préparation n'est pas seulement intellectuelle ni vestimentaire, mais aussi spirituelle. Donc, sur ces trois plans que je me prépare souvent pour affronter les épreuves.
Moi, je prépare mes examens d'état en me focalisant non seulement sur ce qu'on a étudié en classe, donc les matières apprises tout au long de l'année scolaire, mais aussi en me focalisant aussi sur mes propres efforts à moi. Donc, quelques recherches sur Internet, les informations, les actualités du pays, parce que c'est ça aussi quelques questions qui reviennent aussi à ces examens.
Tout d'abord, les examens d'état est comme une finale de la vie scolaire d'un élève. Donc, les préparatifs se font déjà dès la première année. Dès que je suis entré à l'école, je commence à me préparer pour affronter ma finale. Et dès arriver à la classe terminale, je me prépare personnellement par mes efforts à la maison, je me donne à fond, je révise à tout moment. Et ensuite, vu que la science elle est complémentaire, on s'est réunis en groupe pour se partager quelques connaissances.
Et selon moi, l'examen d'état se prépare aussi spirituellement, moralement et physiquement. On doit bien se préparer spirituellement, si on peut aussi le dire, parce que la prière compte aussi.
Vous avez déjà passé des épreuves, des dissertations, français oral et jury pratique certainement. Alors, quelles sont les irrégularités constatées pendant les examens hors session que vous avez déjà effectués?
Personnellement, j'ai juste constaté que la corruption a su prendre le dessus sur le travail que font les autorités et que cela a réellement pu percuter le travail d'un bon nombre d'élèves. Donc, nombreux ne veulent plus s'y donner. Il ne veut plus se donner parce qu'il sait qu'à la fin, il donnera un bon 2000 francs, une somme là. Vu que je connais un bon nombre de personnes qui partent interroger les élèves lors des jurys pratiques et tout. Et ils m'ont dit que non, réellement, il s'est basé sur l'argent donné et non sur l'intelligence ni la capacité des élèves. Cela décourage en fait. On le voit même dans les universités, nos grands frères, comment ils réclament. tout ça, que non, ça marche pas, on leur demande telle somme d'argent. Les autorités ne pensent pas à notre demain et que l'organisation de cette dernière est totalement bafouée, tout comme sa préparation.
Les irrégularités constatées sont multiples. Il y a souvent les fuites. Les élèves n'étudient plus, ils pensent juste attendre ce que les professeurs, les labos vont envoyer. Et j'ai mis aussi l'accent sur la corruption. La corruption est devenue monnaie courante. Les chefs des centres, les inspecteurs, toutes les personnes qui sont au centre sont souvent plongés dans la corruption. Comment se fait-il des élèves qui ont commencé dès l'école primaire jusqu'à arriver en sixième, la langue avec laquelle on enseigne, ils n'arrivent pas à assimiler? Et comment va-t-il simuler les cours qui lui sont dispensés? Donc il faudrait vraiment, moi personnellement, j'ai vécu cette expérience.
Chaque école prend la responsabilité de bien préparer les élèves aux épreuves d'examen d'État. La réussite des élèves constitue un témoignage du sérieux de l'école. Elle est également un meilleur témoignage pour attirer le plus d'élèves. Le professeur Faustin Boka, enseignant de géographie touristique et démographique à l'Institut Notre-Dame de Fatima, nous parle de comment il prépare ses élèves aux examens d'État. Il s'entretient avec Grâce Voisolo.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Monsieur Boka Faustin, vous êtes enseignant de la géographie touristique et démographie à l'Institut Notre-Dame de Fatima à Kinshasa-Gombe.
Oui.
Alors, nous sommes déjà à la veille des examens d'État. Alors, comment aidez-vous vos élèves à préparer les épreuves nationales?
D'abord, il faut dire que la préparation, oui, nous sommes à la veille, mais la préparation ne se fait pas seulement la veille. On a, je crois, deux ou trois moments forts. D'abord, il y a la préparation dès le début de l'année, où nous sommes appelés à terminer notre programme avant l'examen d'État. Cette période-là est caractérisée par des moments de séances, des cours supplémentaires, pour que nous puissions approfondir un peu nos notions en détail vis-à-vis des matières que le ministère nous a donné de terminer avant l'échéance donc de l'examen d'État. Et le deuxième moment fort, ce sont les épreuves semestrielles organisées au niveau de l'école. Là, nous testons, nous évaluons les enfants pour voir un peu leur degré de compréhension et de capacité à répondre à tout ce que nous leur avons donné comme matière pendant les deux semestres que nous venons de terminer. Et le moment qui reste ici, c'est le moment où nous les initions, donc nous initions les élèves à bien résoudre les items. Et la plupart de ces items-là sont puisés non seulement aux examens d'État précédents, mais aussi avec tout ce que nous-mêmes nous avons pu composer comme les questions à choix multiples. Voilà.
Qu'est-ce que vous faites concrètement, professeur, pour préparer vos enfants à la réussite?
C'est une période morte par rapport à toute l'école, puisque les autres élèves venaient de clôturer déjà leur examen de la fin de l'année. Alors cette période ici qui nous reste, nous regroupons tous nos finalistes. Et chaque jour, ils sont ici et chaque professeur a un temps donné pour qu'ils puissent exercer, répéter et au besoin aussi interroger ces enfants pour qu'ils puissent à maîtriser, si vous voulez, tout ce qui peut être susceptible d'être donné comme question à l'examen d'État de cette édition, évidemment.
Comment sont les préparatifs? Ça évolue bien? Les enfants y participent?
Les enfants, je peux dire que au début, ils sont un peu hésitants puisqu'ils se croient que c'est fini l'année scolaire. Heureusement, nous avons un système. Nous avons lancé les invitations dans les groupes de l'école et on venait de débuter depuis hier. Ils ont répondu massivement. Et ceux qui n'étaient pas peut-être avertis pourront les rejoindre demain. Puisque s'ils ne viennent pas tout au plus tard en ayant 48 heures, les absents-là seront sanctionnés par la direction. Et les enfants ont obéi. Et ils étaient là, chacun occupant une salle pour leur donner un peu, si vous voulez, les matières, surtout des branches spécifiques. Et comme je vous avais dit tantôt là, chaque professeur se prépare pour faire son travail comme il se doit devant ces enfants-là.
Avez-vous un message à lancer à tous les enfants qui vous écoutent en ce moment à travers cette émission sur les différentes manières de préparer les épreuves nationales?
Non, il n'y a pas une potion magique. Hein. Si vous voulez réussir à l'examen d'État, vous devez vous mettre au travail dès le début. Ça, c'est d'abord très important. Et prendre conscience que ce n'est pas les maquisardias ou ce n'est pas la corruption qui va vous permettre d'obtenir facilement l'examen d'État. Mais d'abord avoir cette conscience-là que je suis finaliste et je dois satisfaire non seulement mes parents et aussi à mon école, que tout ce que nous avons eu durant les parcours scolaires, nous devons les mettre à profit pendant toute la période de l'organisation de l'examen d'État. Alors, je souhaiterais, d'après mon avis, que si vous ne voulez pas vraiment aller dans le sens de déviationnisme, c'est-à-dire qu'au maquis, surtout qui ne sont pas organisés par les écoles, les enfants font ce qu'ils veulent, hein. Ils ne sont pas vraiment organisés, et la plupart préfèrent encore sortir et revenir vers 20h pour dormir. Et dans les écoles qui sont organisées, où il y a un internat, bon là il n'y a pas de problème puisque tout est bien structuré et puis les enfants sont bien surveillés. Mais au finish, ils doivent d'abord s'orienter vers la préparation d'abord individuelle et la préparation collective pour qu'ils puissent s'entraider au moment où le professeur n'est pas là pour donner la chance à chacun de pouvoir quand même obtenir l'examen d'État, le diplôme avec beaucoup d'honneur et de dignité. Voilà.
Monsieur Boka Faustin, merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, grâce au Résolo.
Dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite en RDC, le ministère de la Santé organise du 13 au 15 juin 2024 une campagne de vaccination contre la polio avec l'administration de la vitamine A et de l'albendazole vermifuge pour tous les enfants de 0 à 5 ans dans toutes les provinces, excepté la province du Tanganyika où les enfants de moins de 15 ans seront ciblés. Ainsi, il est demandé aux parents et gardiens d'enfants d'accepter les agents de mobilisation sociale et vaccinateurs qui vont parcourir les maisons et les autres lieux publics pour sensibiliser les familles avant les débuts de la vaccination. Faisons vacciner nos enfants à chaque occasion pour les protéger de cette maladie. Vacciner, c'est aimer. Vacciner, c'est protéger.
Parlons actuellement du phénomène maquis. Habituellement en RDC, les finalistes du secondaire s'éloignent de leur famille pour un maquis. L'organisation de maquis se présente comme l'isolement des élèves finalistes pour préparer leurs épreuves, soit dans des écoles ou dans des maisons louées pour la circonstance, moyennant de frais. Mais le préfet de l'Institut Monseigneur Bokeleyale, Deli Boufaka, a exprimé son désaccord mercredi 29 mai concernant l'organisation de maquis par les élèves sans l'approbation de leurs écoles. Le point avec Moïse Lindombe.
Lors d'une interview accordée à la radio Okapi à un mois de la session ordinaire de l'examen d'État, a déclaré « Je condamne fermement des maquis, en particulier ceux organisés par les élèves eux-mêmes. Ces endroits sont des théâtres de divers comportements non appropriés de la part des élèves. Nous disposons d'un internat pour les élèves de la 7e année jusqu'à la 4e année des humanités. Ils s'y bénéficient d'un encadrement adéquat, d'une bonne alimentation et sont très concentrés dans leur études. Pour lui, réunir les finalistes en ce moment crucial n'est pas une obligation. Il a toutefois reconnu que des élèves réunis dans un internat de l'école ont la possibilité d'éviter les embouteillages de Kinshasa et de maintenir leur concentration. À l'approche de l'examen d'État, prévu le 24 au 27 juin, certains élèves estiment qu'une des meilleures façons de se concentrer pour affronter ces épreuves est de s'isoler dans un maquis. Dans le quartier Kintsuka, commune d'Engaliema, des élèves garçons et filles d'une école privée louent une maison de $50 comme coût de loyer pour leur maquis. Dans ces maquis, selon les reporters de Radio Okapi, les garçons dorment dans les salons tandis que les filles occupent la chambre. Ils cotisent pour la nourriture et les autres dépenses quotidiennes. L'un d'entre eux, le chef de promotion, a déclaré que c'était sa première expérience loin des foyers parentaux et qu'il lui servirait surtout qu'il envisage de vivre en internat une fois à l'université. Je suis pratiquement majeur, je me sens responsable ainsi. Cette expérience facilitera mon adaptation à ma nouvelle vie universitaire qui m'attend, a-t-il ajouté. L'organisation des maquis est interdite depuis 2020 par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Mais qu'en est-il de conditions pour qu'une école soit retenue comme une centre de passation d'examen d'État ? Pour Jean Bangou Mambou Doudou, préfet de l'école Lossa à Matete dans la ville de Kinshasa, la condition sine qua non pour qu'une école soit retenue comme centre pour les épreuves d'examen d'État est la viabilité de cette école. Il est au micro de Jeff Opela.
Bonjour monsieur.
Bonjour, bonjour monsieur.
Très cher préfet, on est en face de vous et dans le chaud de la période des préparatifs des épreuves d'État. Quelles sont les conditions pour qu'une école aujourd'hui soit retenue comme centre ?
Pour qu'une école soit retenue comme centre d'examen d'État, on parle plus de la viabilité. Et quand on parle de la viabilité, on fait allusion aux installations sanitaires, le nombre de salles, la grandeur de la cour de l'école, ainsi de suite. Et quand on trouve que c'est viable, on vous classe comme centre d'examen d'État. C'est à peu près ça.
Monsieur Jean Bongou, alors quel est le nombre d'élèves indiqués pour chaque centre ?
Généralement, quand nous allons dans des centres, nous nageons dans des 350 à 400 élèves par centre. Ça revient à dire que quand on a 400 élèves par centre, cela signifie que nous avons à peu près 40 élèves par salle, à raison de 10 salles par centre. Donc, quelque chose comme ça.
Et quel est le sort réservé aux élèves qui n'auront pas soldé le frais requis ?
En fait, le frais requis, c'est le frais de participation aux examens d'État.
Exactement.
Bon. En principe, l'examen, c'est l'examen d'État. Quand un élève ne paye pas le frais d'examen d'État, ça n'engage pas l'école. Mais si l'État est en musique de renvoyer l'élève à partir des centres de l'examen d'État, là, ça ne nous engage pas. Et là, je ne sais pas décider le sort de l'État, là, des élèves à la place de l'État. Non. Bon, généralement, chez nous, l'élève termine les frais scolaires. Il termine les frais scolaires, après il paye les frais de participation, là il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours des cas que nous délibérons facilement.
Et comment préparez-vous aujourd'hui vos élèves pour faire face à ces épreuves d'examen d'État ?
Écoutez, on ne peut pas commencer à préparer les élèves à la veille des examens d'État. Les élèves sont préparés déjà dès le début de l'année. Nous avons commencé, voulais-je dire, à préparer nos élèves à partir du mois de septembre. Nous avions organisé les cours de rattrapage pour arriver à respecter les prévisions des matières. Nous avons remarqué généralement, après les examens hors session, il y a les élèves qui ne viennent plus au cours. Alors chez nous, nous avons opté un système. Nous terminons ou nous avançons avec les programmes. Ne restons qu'avec un ou deux chapitres pour clôturer l'année. Donc, en bref, je peux dire que les élèves sont préparés dès le début de l'année. Donc, c'est à peu près ça.
Et un mot à dire comme étant préfet d'une école après avoir eu une expérience de plusieurs années. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire aux écoles, aux préfets comme vous, ainsi qu'aux professeurs qui préparent les élèves pour ce genre d'épreuves ?
Bon, en fait, nous demandons seulement à nos collègues préfets de préparer les élèves. Les élèves doivent être préparés dès le début de l'année. On ne peut pas s'attendre à autre chose si on n'arrive pas à préparer les élèves. Les élèves doivent être préparés pour affronter les épreuves, c'est tout. Moi, je pense que c'est ça ce qui est important pour moi.
Merci, monsieur Jean Bongo, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, c'est moi qui vous remercie, monsieur.
Merci, Jeff Opela.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue à cette deuxième partie de votre émission Bana Okapi, l'émission de jeunes qui est consacrée sur le préparatif des examens d'État. Les finalistes du site Kivu, précisément de la ville de Baraka, disent se préparer à affronter les épreuves nationales avec confiance car ils prennent au sérieux leur temps pour recevoir les cours. Ils sont au micro de Ilangi Lumenge, notre confrère de la radio communautaire Umoja.
Radio Okapi.
À Baraka,
Okapi,
sur 103 FM.
Okapi.
Je réponds à Aline Ebomba Charlie, élève du complexe scolaire La Fortine, en 4e TS.
Comment tu prépares affronter les examens d'État?
Je prépare mes examens d'État en étudiant beaucoup. Premièrement, au mois d'avril, j'ai bien préparé la dissertation. Je faisais le MACU. J'étudie 2 à 3 fois. Parfois, nous allons étudier 7 heures à 10 heures, soit à 12 heures. On sort d'abord, puis encore à 15 heures, on vient, puis on étudie jusqu'à 20 heures.
Donc, vous avez commencé par les maquis, mais actuellement, vous ne faites plus les maquis. Comment vous expliquez commencer par les maquis, puis arrêter?
Se limiter par les maquis lorsqu'on avait d'abord présenté la dissertation. Mais actuellement, on préfère les faire, mais nous n'avons pas encore précisé ça. Chacun étudie chez eux ou chez elle.
Et qu'est-ce que vous constatez comme irrégularité dans la préparation des examens par rapport à toi-même d'abord, par rapport aux autres et par rapport à l'école?
Premièrement, je vais commencer par l'école. À l'école, nous étudions, mais certains élèves s'absentent trop. Comme ils disent, je suis au plafond, je me crois être finaliste, je suis au plafond, j'ai déjà tout réussi, chacun précise ses pourcentages qu'il va réussir avec. Mais les autres s'absentent trop. Et les autres arrivent comme il faut. Comme moi, j'y arrive comme il faut vraiment.
Moi, je m'appelle Ricardo Baraka. Je suis élève du collège à Notre Espoir. C'est là où je fréquente mes études. À ce moment, merci.
Je rappelle que tu es finaliste aux examens d'État de l'édition 2023-2024. Comment vous vous préparez aux examens d'État?
Oui, bien sûr, je suis finaliste. Et on se prépare très bien parce que nous sommes dans le parcours de commencer les études. Donc, nous commençons à étudier dans les après-midi, même les montées, dans cette période là où les enfants ont déjà terminé le examen. Et c'est le moment de nous de se préparer pour voir si nous allons passer cette étape qui est devant nous. À ce qui concerne les maquis, ça, nous ne faisons pas les maquis, mais en fait, ce n'est que les simples études. Donc, nous étudions seulement les matins. Arrivé seulement à 15 heures, comme ça, 14 heures, on termine avec les études et on étudie très fort. Bien sûr, des avant et des après-midi aussi.
Et qu'est-ce que vous constatez comme des irrégularités dans la préparation des examens d'État?
Bon, dans les cas, selon nous, des irrégularités, si on peut dire. Il n'y a pas de confusion, on peut dire. Donc, nous étudions très bon, alors, et nos encadreurs nous encadrent selon le programme.
Radio Okapi.
À Uvira.
Okapi.
Sur 105.3 FM.
Okapi.
Nous poursuivons notre mission sur les préparatifs des examens d'État. Rendons-nous maintenant à Béni, où les élèves finalistes du secondaire préparent les examens d'État dans le contexte d'insécurité caractérisé par les massacres de civils par les rebelles de l'ADF. Les finalistes affirment se préparer du mieux qu'ils peuvent, parfois au péril de leur vie. Suivez.
Nous sommes en train de nous préparer très bien, on est en train d'étudier malgré l'insécurité dans notre partie de Béni. Vous savez, on a peur même d'étudier car les coups de balle sont en train de crépiter près de nos écoles. Il y a des massacres des élèves, même les enseignants, ça impacte négativement à notre éducation. Et nous allons faire les examens malgré ces difficultés. Vous savez, il y a les autres même qui sont en train de fuir maintenant, ils n'étudient plus.
Nous nous préparons très bien parce que jusque maintenant nous sommes en train d'étudier, même aujourd'hui là, comme vous nous trouvez ici, nous sommes toujours ici pour les études.
Je suis en train de me préparer très bien. On est en train de s'efforcer. Nous sommes en train de passer nuit ailleurs. On s'efforce d'étudier épais parce que à 21h, on a peur de la dieuf, de l'incursion. Tantôt des coups de balle, si tantôt des bandits. Alors nous, on a peur et on est en train de s'efforcer toujours d'étudier. On est là, on va travailler toujours. Ce qui va nous arriver, on va voir comment se défendre.
Les difficultés que nous avons rencontrées durant l'année scolaire, ce que je peux évoquer, c'est la grève décrétée par les enseignants. Cette grève nous a beaucoup perturbés.
Suite au massacre, on peut arrêter 2-3 semaines et cela nous perturbe souvent. Cette année, nous venons d'arrêter au moins plus de 3 fois suite au massacre à l'est de la RDC.
Honore Kivu, certains finalistes de placé vivant dans la ville de Beni disent être confiants de leur réussite à l'examen d'État pour cette année scolaire. En dépit de quelques difficultés financières auxquelles ils font face, ces élèves venus de plusieurs localités en proie à l'insécurité dans la région de Beni et sa périphérie affirment avoir suffisamment préparé ces épreuves afin de garantir leur réussite. Écoutons quelques-uns au micro de Grévis Salomon.
Je suis venu de Makoumou après les atrocités des Andef. Oui, en matière de préparation aux examens d'État, nous sommes bien préparés parce que nous sommes formés depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Nous nous préparons bien avec les enseignants, ils nous informent bien. Nous avons donc toutes les informations quant à ce qui concerne les examens d'État. Pas d'inquiétude vraiment, nous avons beaucoup étudié, nous avons confiance à la matière donnée par nos enseignants. Ça ne nous affecte pas parce que nous sommes bien consolés par les autorités scolaires de notre école, aussi par nos enseignants et aussi par les amis avec lesquels nous étudions. Quant à ce qui concerne les difficultés, nous élèves déplacés, nous avons plusieurs difficultés. Exactement, nous étions bien accueillis à l'école. Parfois, nous ne payons pas les frais scolaires comme les autres. Il y a les moments où on nous refoule sans pitié vraiment. Nous faisons les examens de rattrapage. Mais pour des matières, nous sommes bien enseignés comme les autres, d'ailleurs plus que les autres, parce qu'on nous avait aussi rattrapés après notre arrivée ici à Beni. C'est depuis donc les mois de mars de l'année ici. On nous avait récupéré, donc on étudiait presque à double ego. Les matins, les avant-midi, les après-midi.
Moi aussi, je suis venu de Makoumou. Les états, nous les préparons très bien. Nous sommes en train d'étudier ici à l'école, même à la maison. La situation de guerre ne nous affecte pas parce que nous sommes comme si nous sommes chez nous. Nous sommes en train d'étudier ici comme nous étions en train d'étudier là chez nous. La difficulté, c'est concernant toujours le paiement des études parce que nous, les réfugiés, pour payer les études, c'est très difficile. On nous refoule souvent, mais il y a les cas qu'on nous rattrape surtout. Avec Dieu, nous sommes sûrs que nous allons réussir. Les matières restent toujours les mêmes parce que comme je suis vétérinaire, je suis en train de visiter les cours, restent les mêmes toujours. Oui, ça va très bien avec mes camarades. Ils ont bien m'accueilli. Nous sommes dans une amitié. Nous sommes confiants.
Si j'étais en bas, pour arriver ici, je suis venu étudier. C'est depuis le mois de janvier. Les examens sont bien préparés. Parce qu'on est en train d'étudier bien, nous sommes sûrs qu'on doit réussir les examens d'État.
Et des difficultés auxquelles vous faites face?
Ah, c'est concernant les paiements de l'école seulement. J'ai déjà maîtrisé ça. Nous sommes sûrs qu'on doit réussir l'examen d'État. Nous sommes bien concentrés, bien préparés. Parce qu'on a bien étudié les matières. C'est bien maîtrisé.
Toujours à Beni au Nord Kivu, les responsables des établissements scolaires du secondaire, ayant dans leur effectif des élèves finalistes de placés, indiquent avoir pris des précautions pour leur encadrement. C'est ce qu'a fait savoir Dani Kambale Muongia, directeur des études au sein du complexe scolaire Basai-Vusai. Il explique cela dans un entretien avec Grévis Salomon.
Dani Kambale Muongia, bonjour. Nous disons bonjour. Vous êtes le proviseur et directeur des études au complexe scolaire Basai-Vusai, une école qui reçoit également des élèves déplacés venus de plusieurs localités à proie à l'activisme des groupes armés. Comment vous accompagnez ces élèves finalistes déplacés dans la préparation des épreuves de l'ECSETA?
Les élèves sont bien préparés ou encore la préparation est en train de se passer bien. Premièrement, la préparation des examens d'État s'est faite à partir de la fondation de l'option ou encore à partir de troisième année, ancienne appellation, ou encore première année des humanités, actuelle appellation. Et de deux, les enseignants de leurs différents domaines qui le dispassent les différentes branches, ce sont des enseignants qui sont bien préparés. Il faut passer les élèves, les différentes épreuves, soit les différents exercices, les différentes pratiques pour la préparation de cette situation ou encore les examens d'État. À part ça, les élèves eux-mêmes sont en train de se préparer. On est en train de les instruire, de s'intégrer dans les différents groupes d'études ou encore eux-mêmes sont en train de s'organiser d'une manière bonne ou encore d'une manière efficace pour la bonne réussite de cet examen ou encore de ces épreuves des examens d'État.
Prenons le cas particulier des élèves finalistes déplacés. Comment vous les accompagnez?
Les élèves finalistes déplacés à provenance de différentes zones menacées par les groupes armés sont accueillis par l'ordre de notre inspection et de notre sous-division de l'EPST Beni parce que nous ne pouvons pas recevoir ces élèves sans l'autorisation. Et nous sommes en train de les demander d'être calmes parce que le programme national est uniforme et la dispensation de matière est la même. Et la préparation doit être aussi uniforme. Qu'ils soient calmes malgré observer les bouleversements de la situation. Mais nous espérons qu'eux aussi vont obtempérer afin de réussir à cette épreuve.
C'est sûr qu'ils peuvent être traumatisés au regard des affres de la guerre. Est-ce que psychologiquement, ils bénéficient d'un accompagnement?
Bien sûr, les enseignants sont là pour ce travail. C'est notre tâche. Notre tâche, nous enseignants, est d'apprendre à préparer cette génération qui est le monde de demain.
Et est-ce que ce finaliste déplacé bénéficie des traitements particuliers par rapport à d'autres élèves?
Bien sûr, parce que les régions dans lesquelles ils sont à provenance, c'est une région qui a été menacée par plusieurs groupes armés tels que je l'ai signalé. Maintenant, comme ce sont des cas qui sont spécifiques, nous sommes en train de les mettre à côté pour leur donner certaines instructions d'une manière psychologique parce que nous avons aussi des notions de la psychologie et nous connaissons le comportement de telle ou telle autre personne et la façon dont elle va se comporter quand il y a surtout de telles atrocités causées par les ADF. Nous sommes en train de les demander d'être calmes, de les consoler de manière qu'ils suivent les différents cours, qu'ils s'intègrent aussi dans les groupes des autres pour suivre les études afin de préparer cette épreuve.
Est-ce qu'il ne faut pas face à quelques irrégularités, par exemple sur le plan administratif?
Nous recevons l'ordre à provenance de l'inspection ou encore de la sous-division. Une fois les provèdes, soit les spools prouvent, nous n'avons pas à discuter, nous n'avons que le travail d'exécuter ce qu'on a dit. Ce sont nos affaires congolais, ce sont nos affaires de la maison et nous avons le devoir de les encadrer comme les autres qui restent ici dans la ville.
Est-ce qu'ils bénéficient d'un allègement sur le plat paiement de quelques frais au niveau de l'école?
Au niveau de l'école, qui sont privilégiés par l'inspection. Pour ce qui concerne le frais des examens d'État, là, le gouvernement a déjà déclaré la gratuité. Là, d'abord, nous n'avons pas à palabrer beaucoup.
Dany Kambale, nous rappelons que vous êtes le directeur des études, mais aussi proviseur au complexe scolaire Bassaï, une école secondaire de la ville de Beni, qui reçoit quelques élèves finalistes déplacés. Merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, Grévis Salomon. J'espère que vous prenez plaisir à écouter votre émission Bana Okapi sur les antennes de Radio Okapi.
Okapi,
Okapi, Okapi.
Les préparatifs d'examen d'État 2024 prévus en RDC du 24 au 27 juin et au centre de votre magazine. Comment prévenir la tricherie lors de la passation des examens d'État? L'ONG Imaé Écoles Amombongote dit qu'il est possible que la tricherie soit évitée. Écoutez Serge Bondedi, président de l'ONG Imaé Écoles Amombongote, dans cet entretien.
Laissez-moi vous dire que la question de la fraude et de la tricherie et de la corruption pendant les épreuves certificatives est une question d'ordre majeur qui préoccupe notre organisation, d'autant plus que ça va faire 5 ans d'affilée. Nous ne cessons d'aligner cette question comme une des thématiques lors de l'organisation de la campagne Écoles Amombongote. Donc c'est donc un sentiment de redevabilité envers la communauté que je me trouve devant votre micro. Mais laissez-moi vous dire que cette question de la fraude et la tricherie a pris des proportions extrêmement inquiétantes parce que elle est devenue généralisée et systématisée. C'est la fraude et la tricherie qui, les années passées, étaient très mal perçues dans la société et même dans le milieu éducatif. Aujourd'hui, elles sont devenues normales. Tout le monde use de la fraude. Quand je dis tout le monde, c'est-à-dire presque à tous les niveaux de responsabilité de l'appareil éducatif en République démocratique du Congo, partant de ceux qui gouvernent, aux gestionnaires, jusqu'aux apprenants. Et donc, il y a intérêt que tous les citoyens, et surtout le gouvernant, je pense, les nouveaux, avec le nouveau gouvernement, comprennent et réalise les dangers. Et aujourd'hui, les dangers est là, il est palpable. Qui ne se lamente pas du processus électoral? Qui ne se lamente pas du choix des critères sur le choix des animateurs de certains dispositifs fonctionnels de l'État qui ne se lamente pas avec nos compétitions sportives. C'est tout le monde qui se plaint de la fraude, et bien parce que la population ne peut donner que ce qu'elle a reçu durant son instruction. Et la population a reçu aujourd'hui, si nous prenons le repère, l'indicateur de l'année 1990 où tout était volé en éclats, l'élève de 1990 a aujourd'hui 35 ans. C'est cette masse active de la population qui vit le quotidien et qui ne peut et ne sait que produire la fraude, parce que cette masse populaire a étudié dans le contexte de la fraude, a obtenu le titre EPS scolaire comme académique dans le contexte de la fraude. C'est la fraude, la tricherie est ancrée en elle et ne peut exercer que la fraude pour obtenir quoi que ce soit.
Comment éviter la tricherie ainsi que la corruption avant et pendant les examens d'État?
Vous savez, pour résister à la fraude, il faut avoir un certain niveau de formation morale, mais pour la plupart des cas, ce sont des humains. Ils sont en face des enfants qu'on suppose des autres qui sont peut-être nantis, mais eux, par contre, laissent leurs enfants, laissent les leurs à la maison, peut-être sans rien sous la dent, mais ils succombent devant ces éventuelles tentations ou devant ou face à ces différentes tentations de la tricherie et de la fraude. Parce que il faut trouver de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins. Ils ont le point à leur possession, ils ont les stylos, ils ont les cahiers des cotes, ils ont des fiches de délibération. Ils sont tentés ou ils font l'objet de ces tentations, donc ils monnaient ce qu'ils ont. Et les causes immédiates, il y a quand même aussi la question de la responsabilité des enfants. Est-ce que la génération présente connaît ce que c'est la fraude et ses effets dévastateurs? On avait initié il y a 2 ans la tenue des assemblées publiques de TEP où on associe directement les élèves finalistes pour leur parler des conséquences de la fraude et le bienfait de mériter une réussite pendant un parcours scolaire. On l'a fait à Kananga, on l'a fait à Mbanzangungu, on l'a fait à Lubumbashi, on l'a fait à Kolwezi, on l'a fait à Kinshasa, à Changu, à Njili. Mais ce qu'on a eu comme feedback de point de vue de cette jeunesse montante, c'est révoltant. Beaucoup d'entre eux ne maîtrisent pas les effets dévastateurs de la fraude dans une société. Parce qu'elles sont nées, ils sont trouvés ces phénomènes. Alors, beaucoup d'entre eux croient que c'est normal. Alors, déjà, ceux qui grandissent, comment ils obtiennent le pied ces titres scolaires, comment ils passent des classes. Aujourd'hui, nous voyons la partie visible de l'iceberg, mais il y a un travail qui doit se faire au fond, qui doit se faire de manière méthodique, continuellement et systématisée. Il faut des mécanismes qui renforcent la lutte contre la tricherie. Et quand ces mécanismes n'existent pas, on peut facilement recourir à la fraude, et ce qui occasionne effectivement les recours à la fraude ou à la tricherie par les enfants.
Monsieur Serge, pensez-vous que les examens d'État avec toutes ces irrégularités constatées soient quand même crédibles?
Je peux quand même vous dire que d'après certains analystes africains, le pays compte quand même parmi le pays un bon système d'évaluation par rapport à un certain, je relativise de nouveau, un certain nombre de pays subsahariens. C'est ce que certains observateurs estiment. Mais avec ce qui se passe avec l'examen d'État et ce qui s'est passé surtout l'année passée, je vous rappelle que l'année passée, il y a eu double publication de l'examen d'État. Si déjà au niveau national, Si déjà ceux qui gouvernent ne font pas suffisamment preuve du sérieux dans l'organisation des évaluations, comment il peut y avoir du sérieux? Comment les enfants auront à se comporter avec du sérieux?
Certains témoignent qu'aux examens de TAS, ceux qui réussissent le mieux sont souvent les moins intelligents. Est-ce le résultat de la tricherie?
C'est vrai, il y a beaucoup qui ne cessent d'estimer que ceux qui réussissent très souvent l'examen d'État sont des élèves qui ne sont pas suffisamment intelligents. Il y a quand même des éléments qui entrent en compte dans la correction et la délibération des épreuves de l'examen d'État, qui sont des questions beaucoup trop complexes et techniques, très souvent maîtrisées par les inspecteurs, des questions pour lesquelles je ne m'hasarderai pas à répondre ou à donner des explications. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en compte, ce qu'on appelle le point de l'école, et le E13, ainsi que les différents points des différentes épreuves, les hors-sessions et les sessions et les épreuves de la session ordinaire. Mais il est vrai que dans le constat sur terrain, on ne cesse de se poser des questions sur la qualité ou la performance de certains candidats déclarés réussis aux épreuves de l'examen d'État. Ça renvoie au débat sur la sincérité de l'examen d'État. Est-ce que ce qui est publié, est-ce que ceux qui sont retenus comme lauréats sont sincèrement des lauréats? Ce sont des questions de fond qui militent pour la réqualification de certains points ou de certaines questions sur l'examen d'État.
Quelles recommandations pouvez-vous faire à l'EPSP pour sécuriser les examens d'État à venir?
La première des recommandations, puisqu'on en parle, c'est d'abord le financement de l'examen d'État. Il faut que nous arrivions à avoir un financement global, sécurisé et rassurant de l'examen d'État par l'État seul pouvoir organisateur de l'enseignement. Si l'État s'assume en termes du financement de toutes les épreuves et de toutes les étapes, un financement adéquat, je crois que ça serait déjà un début d'amélioration des bonnes choses. Ensuite, il y a aussi les efforts des uns et des autres. Il y a la part de partition à jouer par les élèves, par les enseignants, par les gestionnaires d'école, par les inspecteurs, par nous les partenaires en termes de sensibilisation. Chacun a une grande part de responsabilité pour que les choses avancent. Mais aussi, il y a quand même des choses pour lesquelles il faut respecter dans l'immédiat. Et il y a beaucoup de choses sur cette question qui favorisent donc la fraude, la qualité de ceux qui surveillent, la qualité des intervenants dans leur ensemble. Ce sont des questions pour lesquelles il faut que les uns et les autres en accordent beaucoup plus d'intérêt et d'attention. Merci.
Monsieur Serge Bondedi, nous vous remercions.
Okapi,
Okapi. Okapi.
Vous venez de suivre Serge Bondedi, président de l'ONG Imaye, École des Hommes Mbongote. Et c'est par ici que prend fin votre émission Bana Okapi. Comment les élèves finalistes du secondaire se préparent aux examens d'État était au centre de cette émission, réalisée par Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matwaki, mise en onde par Dieudonné Nyangasawa Nyangasa. Cette émission a connu la participation de Grace Wesolo, Jeff Opela, nos confrères de Radio Communautaire et Grévis Salomono. À la présentation de ce magazine, Sarah Sombela. Si vous avez raté l'intégralité de cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre site www.radiokapi.net et sur la page Facebook Bana Okapi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver très prochainement.